les copains, l'émission des années 60. Salut les copains! Sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, ce sont 1 million d'enfants qui pourront avoir accès à des vacances studieuses. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a présenté hier les modalités de son projet Vacances apprenantes. Des écoles resteront ouvertes avec des cours le matin, des activités l'après-midi. 400 000 élèves en bénéficieront. Du soutien scolaire sera organisé gratuitement, notamment la dernière semaine d'août. 25 000 personnels seront mobilisés. C'est 5 fois de plus qu'actuellement. Et l'État va aussi financer 300 000 places en centre de loisirs et 250 000 en colonies de vacances. Si vous jetez vos masques au sol après l'utilisation, gare à vous, ça pourrait vous coûter plus cher. Brune Poirson, la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire, va faire passer l'amende pour jet de masque de 68 à 135 euros. Une manière de rappeler l'importance de ne pas jeter les détritus n'importe où, alors qu'aujourd'hui elle participe à un grand nettoyage du côté de Saint-Jean-Cap-Ferret, la veille de la journée mondiale de l'océan. Et justement, concernant le Covid-19, selon Santé publique France, 31 personnes sont décédées dans les hôpitaux en moins de 24 heures, ce qui fait 29 142 victimes au total du Covid-19 et le nombre de personnes en réanimation continue également de chuter. Et puis au niveau international, près de 400 000 personnes sont décédées, les restrictions commencent à se lever peu à peu en Europe, mais en Amérique du Sud, le virus continue à se propager très vite. Le Brésil est le troisième pays le plus touché, son président menace de quitter l'OMS, et plus au nord, alors que le virus fait toujours plus de 900 victimes chaque jour, Donald Trump a annoncé que le pays aurait vaincu le virus. Fuir plus facilement son compagnon violent, c'est ce que propose le gouvernement pour aider les femmes victimes de violences conjugales en France. Selon un décret paru au journal officiel hier, les femmes peuvent désormais débloquer par anticipation leur épargne salariale. Pour l'obtenir, les femmes devront obtenir d'un juge une ordonnance de protection interdisant au compagnon d'entrer en contact avec sa victime. Ils étaient des dizaines de milliers hier dans les rues du monde entier pour dénoncer leur ras-le-bol du racisme et des violences policières. Il y a eu des rassemblements au Royaume-Uni, en Australie, en Tunisie, en Pologne, au Canada ou même en France.
RVE, le point sur l'actualité locale.
On va à Maurepas, où la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire s'est rendue ce mercredi en milieu d'après-midi à la déchetterie de Maurepas. Elle a visité l'établissement avant de faire un point sur le fonctionnement de la déchetterie et les méthodes d'adaptation mises en place face à la crise sanitaire. Dans un tout autre registre, ça y est, l'espace Rambouillet a rouvert ses portes mercredi, rouvert ses portes au public. Cette ouverture ne sera effective que le mercredi, samedi et dimanche du fait de la crise sanitaire. Au micro de RVE, Monsieur Tétard de l'espace Rambouillet nous apporte quelques précisions.
L'espace Rambouillet ouvre à nouveau ses portes. Alors c'est un petit peu particulier suite à la période qu'on a eue, parce que autant nous les hommes on a été confinés, et autant les animaux eux ils ont été complètement déconfinés. Du coup ils ont bien profité, on va dire, ils ont repris leur aise. Bah, ça va être un moment vraiment sympa. Il y a beaucoup d'habitués qui attendaient ce moment avec grande impatience. Dans un premier temps, on ne va ouvrir que le mercredi, le samedi et le dimanche. On va voir par la suite en fait comment ça va évoluer, comment on pourra ouvrir un petit peu plus. Et il va y avoir aussi certaines choses qui, pour l'instant, sont mises un petit peu entre parenthèses, c'est-à-dire que l'audit sévère, le parcours dans les arbres, c'est très compliqué de garantir une désinfection totale de tous les câbles que les enfants et les adultes touchent, donc pour l'instant, on ne la réouvre pas. La représentation des rapaces, pour l'instant, n'a pas lieu parce que, en fait, on ne veut pas inciter les gens à se réunir de trop.
C'était Monsieur Tétard de l'espace Rambouillet. Réouverture également de la maison Elsa Triolet à Aragon à Saint-Arnaud-en-Yvelines, et ce depuis le 1er juin dernier, tous les jours de 14h à 18h. Un protocole sanitaire a été mis en place, impliquant notamment distanciation, masque et réservation en ligne obligatoire. Du gel hydroalcoolique est également disponible. La maison Elsa Triolet Aragon vous accueillera pour des visites guidées de l'appartement musée. En outre, c'est une nouveauté, la maison Elsa Triolet Aragon proposera désormais une visite commentée du jardin de sculpture. Malheureusement, la saison culturelle prévue pour les mois de juin et juillet est annulée. Et dans le cadre du protocole sanitaire, les visites ne seront possibles qu'après une réservation préalable via le site internet. Le parc et l'exposition temporaire peuvent être visités librement pour 5 euros. Une visite commentée coûte 9,50 euros. À noter que l'exposition d'Olga Luna, mêlant toile et masque, couleur et forme, est accessible jusqu'au 20 septembre. L'occasion pour celles et ceux qui en ont été privés par le confinement de venir l'admirer. Je vous rappelle que la maison Elsa Triolet Aragon est au moulin de Villeneuve à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Et dans quelques instants, on retrouvera le sport avec Tribune Sport et Philippe Carnus. La météo d'aujourd'hui, sortez un parapluie, il y aura des nuages, des températures dans la journée qui remonteront un petit peu aux alentours de 19 degrés. Et on aura quelques rares éclaircies et puis quelques pluies éparses. Ça devrait durer comme ça encore quelques jours. Tout de suite, le sport, c'est sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 7 juin, hein. Donc qui dit premier dimanche du mois, dit naturellement actualité du ballon rond. On aura trois intervenants ce matin. On aura d'abord un Stéphanois, notre ami Bruno Pasco. Ensuite, on ira du côté du Stade de Reims avec Jean-Pierre Vaquez, et on finira avec un Lensois, un ch'ti, Jean-Pierre Bosquillon. On va saluer donc notre premier invité de cette journée, c'est Bruno Pasco. Bruno, bonjour.
Bonjour à RVE, bonjour à toi Philippe.
Alors Bruno, d'abord un petit mot sur les mamans, hein. C'est la fête des mamans ce dimanche 7 juin. Donc naturellement que je sais qu'elles sont très nombreuses depuis de très nombreuses années à nous écouter. Même pour Tribune Foot, on va naturellement leur dédier cette émission et leur faire de gros bisous.
Eh bien écoute, je me joins à toi pour fêter une bonne fête à toutes les mamans. Et puis, n'oubliez pas de leur amener une petite fleur. Et en cette période, n'hésitez pas à vous rendre chez votre fleuriste préféré et pour leur acheter un magnifique bouquet.
Voilà. Alors, Bruno, donc, naturellement, le Stéphanois que vous êtes, hein, je pense, n'a pas été insensible à l'arrêt du championnat de Ligue 1. Saint-Étienne, 17e, c'est un arrêt qui a plutôt favorisé les Verts.
Bah, écoutez, effectivement, même si l'actualité du football s'est arrêtée du jour au lendemain, on ne va pas dire que ça a desservi les Stéphanois. Même si, personnellement, j'aurais préféré que le championnat se termine et que l'on voit au moins ce qu'a été capable cette équipe stéphanoise. Bah, écoutez, on prend ça comme ça. Maintenant, on attend la fameuse finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Aura-t-elle lieu? Quand? Dans quelles conditions? Voilà, on n'a plus qu'à attendre les directives et des fédérations et des ligues et des gouvernementales pour savoir quand est-ce que pourra se dérouler cette finale.
Alors justement, on va en discuter, hein, puisque dans le Tribune Foot du mois précédent, on venait juste d'apprendre la décision d'Edouard Philippe, le Premier ministre, de mettre fin aux différents championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de foot, mais aussi pour le rugby, donc au top 14. Bruno, il fallait arrêter donc ces championnats, alors que maintenant, dans les prochaines semaines, les principaux pays européens vont reprendre leur championnat. Est-ce que c'était une décision sage, raisonnable, ou est-ce qu'elle a été un peu trop précipitée?
De mon point de vue, on va dire que à l'époque où les décisions ont été prises, c'est vrai que l'on ne savait pas éventuellement l'évolution de cette pandémie, et on ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'il adviendra dans les mois à venir. Alors effectivement,
ça baisse beaucoup, mais ouais.
On retrouve un petit peu de liberté. Est-ce que le fait que les gens se recroisent plus fréquemment va impacter à nouveau notre système hospitalier? Et alors là, moi je dirais que même si j'ai pas été toujours d'accord avec les décisions et les orientations gouvernementales, je pense, comme l'a dit notre sénateur de la région, Jean-Raymond Hugonnet, qui lui aussi était d'accord sur le fait d'arrêter tout championnat et d'éviter. Alors, les autres pays reprennent effectivement dans des conditions qui me paraissent un petit peu aléatoires. Alors, d'autant plus que il faut prendre en considération qu'un arrêt de 2 mois d'un sportif de haut niveau, en l'occurrence des footballeurs, implique quand même une reprise en plusieurs temps. Et je pense qu'on va assister à des blessures, et ça commence déjà en Allemagne apparemment sur les quelques premiers matchs qu'il y a eu, des blessures de certains joueurs. Donc je me dis qu'effectivement, reprendre pour avoir des joueurs qui vont se casser, se péter assez rapidement, moi je pense que c'était la voie de la sagesse. Après, peut-être que l'avenir nous dira vous aviez tort, mais vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est mon adage, et je pense que la décision était cohérente.
D'accord, pour vous elle était juste, c'était la priorité, c'était naturellement le côté sanitaire, hein, et puis on sait que les sportifs vont devoir s'arrêter, donc c'était une grande coupure, ils vont enchaîner pratiquement sur la saison suivante maintenant.
Oui, mais il y aura quand même une période de préparation, ce qui évitera peut-être d'avoir des blessures graves, comme vont peut-être les avoir les autres championnats, puisque je vous disais... en l'occurrence, en Allemagne, on commence déjà à avoir des blessés, parce qu'effectivement, un athlète, même si ils ont maintenu leur entretien physique, c'est pas de la compétition, c'est pas de l'entraînement tel qu'on peut le concevoir pour un joueur de football professionnel.
Oui, puis Bruno, certains ont peut-être pas eu tout à fait les mêmes conditions. Hein.
En plus,
on joue
en
Paris Saint-Germain, on n'a pas les mêmes conditions que si on joue à Dijon ou bien à Amiens, hein, probablement.
Bah, surtout si on est au Brésil et puis qu'on est confiné au fin fond du Brésil à boire des caipirinhas, c'est sûr que c'est pas le même entraînement que le gars qui est sérieux.
Donc finalement, Paris Saint-Germain qui obtient son 9e titre de champion, ça sera pas un titre au rabais, c'est un titre logique, normal, et justifié.
Alors moi, depuis des années, je dis que le premier du championnat de France, c'est le deuxième, hein, puisque effectivement, il n'y a pas même si on peut pas retirer quand même le mérite à l'équipe du Paris Saint-Germain de finir en tête de ces championnats sur ces dernières années. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, que l'on me prouve le contraire, c'est que le deuxième du championnat, pour moi, c'est le premier à l'heure actuelle. Après, ce n'est que mon opinion. Je vais un peu fâcher les supporters parisiens. Mais bon, on s'attendait de toute façon forcément, pandémie, pas pandémie, arrêt du championnat, Paris championnat, à ce que les Parisiens finissent le championnat.
Oui, Paris aurait été premier, de toute façon.
Bien sûr,
Paris
de toute façon, oui. Bon, hein. Après, c'est les clubs qui sont derrière, où là, effectivement, on entend Monsieur Aulas qui crie à cor et à cri qu'il a été un peu spoilé au niveau du championnat. Bon, on peut le comprendre, même
si... Ce qui n'est pas entièrement faux,
c'est sûr. Oui. Même si j'abonde pas dans son sens, parce que lui, c'est sûr que pour prêcher pour sa paroisse, il est le premier. Mais bon, je vois un club comme Amiens, qui n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout, bah, ils sont relégués. Alors, vous prenez un club comme Lens, et je fais un petit coucou à mon ami Jean-Pierre Bosquillon, mais eux vont profiter aussi de la charrette pour monter en première division. Bon, après, c'est sûr que il y a des chanceux et des malchanceux. Mais bon, de toute façon, l'avenir nous dira et le sport donnera sa vérité. Il n'y a que sur le terrain après que l'on peut juger si les équipes étaient capables ou de monter en division supérieure ou alors étaient à même de descendre en division inférieure. De toute façon, la vérité ne viendra que sur le terrain.
Oui, alors pour être complet, hein, Bruno, on va donner le classement de ce championnat donc 2019-2020, hein, puisque on a fait un classement au ratio de nombre de matchs joués. Le Paris Saint-Germain, donc premier avec 2,52, deuxième Marseille, donc 2. Donc ces deux équipes joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Le troisième, c'est Rennes à 1,79. Rennes devra passer par un tour préliminaire de Ligue des Champions. Et le quatrième, c'est Lille, 1,75, qui jouera en Europa League. Après, effectivement, il faudra attendre les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue pour savoir quels seront les 5e et 6e clubs français qui joueront les Coupes d'Europe. Pour l'instant, au niveau du championnat, le 5e, c'est Nice, 1,46, 6e, Reims, 1,46. Nice qui a fini devant Reims au nombre de matchs particuliers, hein, au match particulier. 7e, on l'a dit, Jean-Michel Aulas, donc, et Lyon avec 1,43. Lyon, en principe, ne sera pas européen la saison prochaine. 8e, Montpellier, 1,43. 9e, Monaco, 1,43. 10e Strasbourg 1,39, 11e Angers 1,39, 12e Bordeaux 1,32, 13e Nantes 1,32, 14e Brest 1,21, 15e Metz 1,21, 16e Dijon 1,07, et puis ensuite donc 17e Saint-Étienne 1,07, 18e Nice 0,96, et les deux clubs relégués donc en Ligue 2, c'est Amiens 19e 0,82 et 20 Toulouse 0,46. On va rappeler que Mbappé termine meilleur buteur, il a le même nombre de buts que Ben Yedder, 18 buts, mais Ben Yedder a marqué 3 pénaltys et Mbappé a joué beaucoup moins de matchs. Voilà donc pour le classement version 2019-2020, Paris Saint-Germain qui obtient donc son 9e titre de champion. Alors on l'a dit, on va attendre ces finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Elles devraient en principe se jouer, Bruno, avant la reprise du championnat 2020-2021, c'est-à-dire probablement aux alentours de la mi-août.
Avec spectateurs ou sans spectateurs, bon, moi, personnellement,
oui, ça, c'est vrai pas que encore sûr.
Ouais. Un match sans spectateurs, pour moi, a un petit goût amer. Mais bon, si c'est pour prévenir aussi cette cochonnerie de virus, effectivement. Mais c'est vrai que l'âme du football, c'est quand même des gens autour. Même si j'ai, dans le terme de supporter, quelques interrogations, puisque tu connais un petit peu ma philosophie du football, un supporter a quand même des devoirs et ne doit pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, un match sans supporter, il manque quelque chose, quoi. Il manque, alors on a beau mettre des bruits de fond.
Il y avait des applications qui étaient prêtes pour se substituer au bruit des supporters, hein, Bruno.
Oui, mais enfin bon, ça, oui. c'est du gadget. surtout que si on fait comme je sais plus dans quel championnat où ils ont oublié de retirer les insultes au niveau des bandes sonores, c'est pas très judicieux. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Mais bon, moi, je vois pas, je vois, c'est vrai. Alors, je crois que c'est en Hongrie ou en Bulgarie, je sais plus, où ils ont commencé à faire revenir quelques supporters. Bon, bah, déjà, ça prend une autre tournure et une autre physionomie au niveau d'un match.
Oui, mais le huis clos, ça n'empêche pas les supporters de se rendre au stade et d'être présents devant le stade. On l'a vu pour le quart de finale retour Paris Saint-Germain-Dortmund, finalement autant de risques. Hein.
Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Il y a autant de risques et puis à la limite, il va y avoir plus de casse parce que ceux qui se rendent à cet endroit-là vont faire un colique à coups et risquent de créer des débordements plus que si on les mettait dans un stade avec peut-être éventuellement deux ou trois sièges de dispo, enfin de vide entre chaque spectateur, avec une discipline et une logique de mise en place comme ça va être fait dans les cinémas, comme ça va être fait dans les théâtres, comme ça va être fait dans les bars. Je pense que là, on peut aussi réfléchir intelligemment et pas faire n'importe quoi.
Il n'y aura que deux descentes et deux montées et qu'on a donc exclu naturellement les traditionnels matchs de barrage, ce qui permet à Nîmes et ben, finalement de se maintenir.
Oui, bah écoutez, après c'est pareil, il a été envisagé une Ligue 2 à 22 ouais. clubs. Bon, je sais pas ce qu'il en retournera. Maintenant, effectivement, à conditions exceptionnelles, décision exceptionnelle. Bon, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il y aura des gens qui auront plus de chance que d'autres. Mais bon, après, je pense que dans les années à venir, ça se rééquilibrera plus ou moins. On sait pertinemment que les clubs qui auront les moyens de sortir un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un impact financier aussi sur pas mal de clubs. Et si on nous prédit un avenir plus ou moins sombre économique, je pense que dans le monde du football et dans le monde d'autres sports, ça risque aussi de faire un petit peu de casse. Et il y a certainement des clubs qui vont souffrir. Et là, je pense aussi aux clubs amateurs qui vont peut-être avoir du mal à subsister. Et je pense que là, alors moi je tenais aussi à féliciter, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont mis un petit peu la main au porte-monnaie.
Oui, on en a parlé dans nos émissions. Sport et du foot a été très solidaire.
Voilà, je voulais revenir dessus parce qu'en fait, il serait bien que nos grands financiers, nos grands banquiers, nos grands assureurs fassent la même chose, parce que je pense que, des gens qui ont mis un peu la main au porte-monnaie pour aider. Nos systèmes hospitaliers, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, doivent être félicités, même si l'argent dans le monde du sport, et en l'occurrence dans le monde du football, ça me donne des boutons, mais bon, pour une fois, il y a des choses. Enfin, on sait que les gens sont impliqués, je sais que Ronaldo est très impliqué dans son pays, que. Bon, voilà.
Mbappé a fait un gros chèque.
Mbappé aussi. Après, on s'en fiche de la somme, on s'en fiche de si. Et effectivement, tous les joueurs de foot ne sont pas obligés de mettre la main au porte-monnaie parce qu'ils ont déjà pas tous le même porte-monnaie, ça c'est sûr. Mais moi, je pense aussi aux petits clubs, même aux petits clubs de division départementale et tout. N'ayant pas eu, là, je pensais au week-end de la Pentecôte, tous les tournois qui sont organisés pour remplir un petit peu les caisses des clubs, elles n'ont pas eu lieu. Donc, je me dis, ça va pas être évident à la reprise. Et les clubs à tout niveau vont, à mon avis, souffrir économiquement.
Oui, parce que Bruno, on va rappeler que en parallèle, tous les championnats amateurs se sont arrêtés. Hein.
Donc, bien sûr.
Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente cette année pour les championnats amateurs. On a été jusqu'en National 1. Après, tout s'est arrêté. Hein. Ça veut dire qu'on recommencera tout à zéro l'année prochaine.
Voilà. Et tout ce qui est tournoi de fin de saison, de jeunes et tout, qui ramenait un petit peu de sous dans l'escarcelle des clubs, n'ont pas eu lieu. Donc tout ça, c'est un manque à gagner aussi. Parce qu'on pense, on pense aux droits télé des gros clubs, mais on pense pas aussi aux finances des petits clubs. Et tu sais que je suis issu et que j'ai œuvré dans les clubs de la région et que Dieu sait si en fin de saison on compte les sous pour voir si on peut racheter les ballons et les maillots pour l'année d'après quoi. Donc là effectivement, ça va être un peu compliqué.
Donc justement, Amiens et Toulouse qui descendent en Ligue 1, en Ligue 2 pardon, la saison prochaine, laisseront leur place en Ligue 1 à Lorient, premier du championnat de Ligue 2 avec 54 points, devant Lens 53, et que par contre c'est Le Mans qui descend, Le Mans 19e avec 26 points, et 20e Orléans 19 points. Ce sont les deux clubs qui descendent qui retrouvent la National 1 la saison prochaine et qui seront donc remplacés par Dunkerque et Pau, qui montent donc en Ligue 2.
Alors, de mémoire, Orléans, ça fait quand même quelques années qu'ils frisent avec la descente. Et puis Le Mans venait de remonter, mais bon, après, on sait pertinemment que de se maintenir dans la division supérieure quand on vient de monter, c'est un peu compliqué si on n'a pas les reins solides.
Et Paris FC s'en est tiré de justesse, hein, parce que là, il n'y a pas eu de match de barrage et de pré-barrage cette année entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le National. Hein, donc,
alors, Paris FC s'en tire de justesse. On va dire que je compare Paris FC avec Saint-Etienne, hein, puisqu'il est un peu près dans la même...
Voilà. Je crois que c'est le même classement.
C'est des parcours similaires aussi bien en L1 qu'en L2.
Et puis c'est Tino donc Caderen qui du Havre termine meilleur buteur avec 20 buts. Voilà. Donc ça va repartir dans les autres championnats. Donc l'Angleterre ça va repartir le 17 juin, l'Espagne ça va repartir le 11 juin, l'Italie ça va repartir le 20 juin et puis l'Allemagne, Bruno, on en parlait, bah c'est reparti depuis le 15 mai. Finalement, ça se passe pas si mal que ça.
Bah, ça se passe pas si mal, à part que j'entendais quand même quelques inquiétudes au niveau de l'état physique des joueurs et qu'il il commençait à y avoir quelques blessures. Alors là, je pense que les clubs, et j'entendais que la fédération française s'était mis en rapport avec la fédération australienne, où apparemment il y a une coupure assez importante, donc pour voir un petit peu les conditions de reprise, parce que je disais encore, là dans les clubs, on a intérêt à avoir des préparateurs physiques dignes de ce nom. Et un staff médical à la pointe, parce que de mémoire, j'ai pas vu des coupures aussi longues, puisqu'en général, l'arrêt c'est on va dire 3 semaines, voire 4 semaines quand il y a des coupes du monde ou des championnats d'Europe pour certains joueurs, mais pratiquement 2 mois et demi d'arrêt. Et là, si les clubs commencent à reprendre l'entraînement, on va dire à mi-juin. Ça va leur faire presque 3 mois d'arrêt ou même de maintien physique. Attention, d'autant plus que la saison 2020-2021 va être une saison.
Il y a l'euro qui est reporté, donc ça va être
voilà.
Continuer. Hein.
Voilà, les Jeux Olympiques reportés pour les équipes qui sont au tournoi de football olympique. Les coupes d'Europe qui vont entre.
Peut-être reprendre. Au mois d'août, ça en sert un peu plus. Ouais.
Oui, mais n'empêche qu'on va finir à la Coupe d'Europe et la Champions League 2020. Alors que la saison la Champions League 2021 va démarrer quoi.
Ouais.
Donc ça va être un calendrier de dingue. Et là les équipes qui sont pas bien armées pour faire tous ces matchs tous les 3 jours, eh ben on a intérêt à avoir des profondeurs de banc assez importantes. Là je pense qu'il y a des joueurs les garçons coiffeurs vont être mis sur la sellette assez rapidement.
Très bien, Bruno, merci en tout cas de votre témoignage, de cette première intervention. Dernier Tribune Foot de la saison.
Voilà, oui, je voulais quand même faire un petit signe à mon ami Bibi de Saint-Etienne et puis avoir une pensée pour Robert Arbin qui nous a quittés. Et puis pour Pape Diouf aussi, hein, bah, tous les joueurs de. Voilà, donc je voulais avoir.
Et Michel Hidalgo.
On a un hommage à tous ces grands hommes du football quand même.
Bien sûr, on en a parlé les mois précédents et c'était la moindre des choses. D'avoir une énorme pensée pour ces trois grands noms.
Qui ne tombent pas dans l'oubli, même s'ils ne sont plus avec nous. Ce sont quand même des gens qui ont déjà, d'une part, bercé notre enfance du football et puis fait des choses quand même grandioses pour le football.
Très bien. Merci, Bruno. Et puis, dans quelques minutes, on retrouve notre deuxième invité. Ça sera du côté du Stade de Reims avec notre ami Jean-Pierre Vaquet.
Je remercie Hervé et je souhaite vous retrouver bientôt dans vos studios.
Merci, Bruno.
Voilà, au revoir.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. À Rambouillet, 14 bis rue Chasles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chasles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02.
01 34 85 20 02.
DMP Doc des matériaux du Perret. Votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux. Le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Vous êtes à la recherche d'un terrain, d'un local d'activité, de bureau, d'un entrepôt, d'un local commercial ? Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités actuelles ? La bourse locaux de la communauté d'agglomération vous permet de trouver sur l'une des 36 communes du territoire des opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins. En collaboration avec les professionnels de l'immobilier, la bourse locaux est gérée par le service développement économique de Rambouillet Territoire qui a pour mission d'aider les entreprises à s'installer dans les meilleures conditions. Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61.
Parole d'expert.
RVE vous propose chaque vendredi matin de 10h à 11h une émission consacrée à la consommation au quotidien. Déjouez les arnaques, soyez informés sur vos droits, consommez mieux. Parole d'expert, c'est l'émission qui répond aux questions que vous vous posez dans votre quotidien de consommateur. Parole d'expert, c'est l'émission qui apporte des solutions simples et éclairées à vos questions. Alors, rendez-vous vendredi prochain à 10h et devenez un consommateur avisé. Vous pouvez également réécouter nos interventions sur le site radio-rve.com.
Vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ce sont 1 million d'enfants qui pourront avoir accès à des vacances studieuses. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a présenté hier les modalités de son projet Vacances apprenantes. Des écoles resteront ouvertes avec des cours le matin, des activités l'après-midi. 400 000 élèves en bénéficieront. Du soutien scolaire sera organisé gratuitement, notamment la dernière semaine d'août. 25 000 personnels seront mobilisés. C'est 5 fois de plus qu'actuellement. Et l'État va aussi financer 300 000 places en centre de loisirs et 250 000 en colonies de vacances. Si vous jetez vos masques au sol après l'utilisation, gare à vous, ça pourrait vous coûter plus cher. Brune Poirson, la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire, va faire passer l'amende pour jet de masque de 68 à 135 euros. Une manière de rappeler l'importance de ne pas jeter les détritus n'importe où, alors qu'aujourd'hui elle participe à un grand nettoyage du côté de Saint-Jean-Cap-Ferret, la veille de la journée mondiale de l'océan. Et justement, concernant le Covid-19, selon Santé publique France, 31 personnes sont décédées dans les hôpitaux en moins de 24 heures, ce qui fait 29 142 victimes au total du Covid-19. Et le nombre de personnes en réanimation continue également de chuter. Et puis au niveau international, près de 400 000 personnes sont décédées. Les restrictions commencent à se lever peu à peu en Europe. Mais en Amérique du Sud, le virus continue à se propager très vite. Le Brésil est le troisième pays le plus touché. Son président menace de quitter l'OMS. Et plus au nord, alors que le virus fait toujours plus de 900 victimes chaque jour, Donald Trump a annoncé que le pays aurait vaincu le virus. Fuir plus facilement son compagnon violent, c'est ce que propose le gouvernement pour aider les femmes victimes de violences conjugales en France. Selon un décret paru au journal officiel hier, les femmes peuvent désormais débloquer par anticipation leur épargne salariale. Pour l'obtenir, les femmes devront obtenir d'un juge une ordonnance de protection interdisant au compagnon d'entrer en contact avec sa victime. Ils étaient des dizaines de milliers hier dans les rues du monde entier pour dénoncer leur ras-le-bol du racisme et des violences policières. Il y a eu des rassemblements au Royaume-Uni, en Australie, en Tunisie, en Pologne, au Canada ou même en France.
Deuxième partie donc de ce Tribune Foot, le dernier de la saison, que vous pourrez naturellement réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions de cette saison 2019-2020. Alors on a un Rémois, Jean-Pierre Vagues, qui est finalement un homme heureux, hein, puisque le Stade de Reims, à l'issue d'une belle saison, a terminé sixième du championnat. Jean-Pierre, bonjour.
Salut.
Alors Jean-Pierre, salut à tous. Le Stade de Reims, sixième, même si c'est un championnat qui s'est arrêté prématurément, vous êtes plutôt un supporter comblé.
Ben, je suis un supporter comblé. Enfin, je signale quand même que le Stade de Reims, à la fin de la saison, est cinquième. Se retrouve sixième avec la moyenne sur la saison.
Oui, c'est le match particulier qui a fait que Nice a fini devant le Stade de Reims. Ça veut dire que Jean-Pierre, il y a encore des chances que le Stade de Reims fasse la Coupe d'Europe. Il faudra simplement être pour la finale de la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, supporter du Paris Saint-Germain.
Voilà. Ben, je suis un supporter du PSG.
Voilà, c'est ça. Alors, je voulais dire, est-ce que c'est une saison qui finalement est méritée, est justifiée? Est-ce que ça laisse des regrets? Est-ce que Reims aurait pu aller plus haut finalement, ou est-ce que c'est inespéré?
Vous le supportez? Ben, écoute, il y a un coup de doute. Moi, je vais t'expliquer un peu. Au départ, j'étais un peu contre l'insistance de Jean-Michel Aulas dans les médias pour reprendre le championnat. Et puis, depuis l'intervention du Premier ministre jeudi dernier, je pense que je suis de plus en plus par rapport favorable à j'aurais été favorable à la reprise du championnat avec Jean-Michel Aulas. Je pense qu'il y a un goût là à mer derrière. Je pense que la fédération et la ligue n'ont pas joué ce jeu. Ils rejettent ça sur la faute du gouvernement, et le gouvernement, le Premier ministre, la semaine dernière, a dit que c'était un peu la décision de la 3F et de la Ligue.
Voilà. Oui, parce que c'est vrai quand même qu'il y a des règlements de compte. Hein. On sent que ça part dans tous les sens. Chacun doit avoir défendre ses propres intérêts personnels. À commencer naturellement par Jean-Michel Aulas. Mais ça veut dire que Reims peut faire une Coupe d'Europe. C'est ça de bonne chose pour vous, Jean-Pierre, ou c'est pas maturé?
Écoute, pour moi, en tant que supporter, je pense que c'est prématuré. Je pense que là, ça arrive un peu trop vite. Et bon, il va y avoir des matchs avant le début de la saison. Je pense que ça va pas ranger leur forme. D'autant plus qu'il y a eu quasiment deux mois ou deux mois et demi d'arrêt. Je pense que c'est un peu trop tôt. J'aurais préféré que ça vienne dans un an ou dans deux ans.
Oui, et puis c'est peut-être aussi une équipe qui va changer, qui va voir ses meilleurs joueurs, comme très souvent, partir.
Bah écoute, il y a au niveau des départs, je pense qu'il y aura le défenseur central d'Izazi qui joue à côté d'Abdelhamid qui risque de partir, et puis l'attaquant Boulaïa qui risque aussi de partir, mais je pense que l'équipe, dans le fond, va pas trop changer quand même.
Donc ça veut dire que Reims, comme la plupart de nos clubs français cette année en Europa League, peut faire la figuration, uniquement que la figuration, et avoir
des... Je pense. Après,
ouais, ça sera difficile de passer un deuxième tour.
Ah oui.
Bon, Jean-Pierre, vous avez donc exprimé sur ce championnat, estimant que vous auriez dû reprendre. Les autres championnats européens ont repris, donc ça vous conforte finalement dans votre opinion.
Ah oui, tout à fait. Je pense que là, il y a eu des décisions de la 3F, c'était rapide, hein, parce que l'intervention du Premier ministre est intervenue le lendemain. La Fédé et la Ligue prenaient leurs décisions. Je pense que c'est un peu gros. Et je pense qu'on aurait très bien pu reprendre fin juin ou début juillet, quoi.
Alors justement, on parlait des Coupes d'Europe, ça va aussi poser problème pour les Coupes d'Europe. On ne sait pas si les Coupes d'Europe vont continuer, si elles vont pouvoir se finir, et puis sous la forme actuelle. Mais en tout cas, c'est vrai que Paris Saint-Germain et Lyon, qui sont les deux équipes françaises qui restent pour l'instant en lice, risquent d'être un peu courtes physiquement, dirons-nous, face aux autres clubs européens.
Ben, ça va être un peu court, hein, mais bon, les autres équipes seront dans le même cas, hein. Peut-être pas l'Allemagne qui a repris. Je crois que l'Italie va reprendre aussi incessamment sous peu.
Mais le 20 juin, l'Espagne le 11 juin et l'Angleterre le 17 juin. Donc, tout le monde reprend, sauf la France,
d'accord,
effectivement. Hein, Jean-Pierre.
Sauf nous.
Et puis l'équipe de France qui, elle, a aussi prévu des matchs de rentrée pour naturellement aller peut-être vers un titre de champion d'Europe à la fin de la saison. Bon, vécu, vous, sur un plan personnel, sur un plan d'amour du foot, cette période un peu particulière à travers cette pandémie?
Alors, c'est dur, hein, ça fait 3 mois là, c'est vachement dur. Moi, je suis habitué à des matchs de foot, je suis abonné à Beansport et à Canal, à SFR, donc le foot me manque. Bon, maintenant, je reprends un peu de la partie avec le championnat d'Allemagne, mais pendant 2 mois et 3 mois, là, ça a été très, très dur.
Et puis, vous avez aussi parlé, justement, de ces matchs à la télé. Il y a eu aussi, naturellement, des problèmes pour les droits télé, hein, puisqu'il y a des chaînes qui ont voulu entièrement tout payer, et c'est là qu'on a vu que, finalement, le foot français dépendait presque exclusivement des droits télé à
60%. Des droits télé,
Ça pouvait mettre des clubs en péril.
Ouais. Et puis au sujet des droits télé, là, je m'inquiétais un peu sur le Media Pro, là, le groupe espagnol qui a été retenu. Et ce matin, bon, j'ai appris la bonne nouvelle avec le partenariat avec TF1. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que par rapport à ça, Media Pro, je m'inquiétais un peu. Ouais. Et là, depuis ce matin, les bonnes nouvelles sont arrivées. Donc, je suis un peu plus rassuré, quoi.
Ouais, mais il y a Pro qui va travailler, on va rappeler, hein, en partenariat avec TF1, puisque l'année prochaine, les calendriers changent, hein. Il y aura pratiquement un match tous les jours, hein. Il y aura un match le vendredi, un match, 2-3 matchs le samedi, et puis il y aura également un multiplex à 15h, et puis 2 autres matchs en fin d'après-midi et le dimanche soir.
Canal n'a plus les matchs de foot le dimanche soir, je crois.
Si Canal garde le match du dimanche soir, je pense, et puis un match de l'après-midi, je crois que c'est samedi après-midi. Je suis pas encore sûr, mais voilà, il y aura quand même 2 matchs.
Le dimanche soir,
je crois que c'est Canal. Voilà, enfin, on verra bien. Voilà. Et Jean-Pierre, en tout cas, merci. Donc, grosse espérance pour la saison prochaine.
Bah écoute, maintenant on est habitué à un peu plus, donc je pense que il risque d'autant plus qu'il y a une cellule de recrutement très efficace. Je pense que la saison prochaine, on risque de remonter un peu plus. En plus, c'est un club familial et il est très bien géré, donc c'est parfait, quoi.
Très bien. Merci Jean-Pierre. À très bientôt.
Donc, à bientôt.
Pour venir parler de foot avec notre équipe de consultants de Tribune Foot. On marque une petite pause et puis ensuite on va retrouver notre troisième et dernière intervenant. C'est le Lensois, Jean-Pierre Bosquillon.
Salut.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
RVE 103.7. les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Au pied des
de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté, fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Troisième intervenant donc de cette matinée, eh bien notre ami Jean-Pierre Bosquillon, après le Rémois Jean-Pierre Vaquez et le Stéphanois Bruno Pascaud, c'est un Lensois que l'on accueille. Jean-Pierre Bosquillon, bonjour. Je suppose que vous aussi, vous êtes un supporter heureux à l'issue de cette saison 2019-2020.
Alors effectivement, bonjour. Déjà, je suis personnellement très heureux avec une petite chose qui est qu'on aurait préféré aller jusqu'au bout de la saison, mais enfin, tous les indicateurs et tout ce qui s'est passé depuis le début de saison allait dans le sens où on devait monter avec tous les éléments que nous avions, le jeu, l'organisation, et ensuite sur les trois points qui étaient choisis pour monter, le classement à la trêve, le classement final ou alors le par point, nous étions en tête pratiquement à chaque fois avec Lorient. Donc là-dessus, sur le règlement, je pense qu'il n'y a rien à dire. On est très 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 heureux parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait l'ascenseur, et là pour la région c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Ça va pas si mal que ça le football dans le Nord, Jean-Pierre?
Oh ben non, il y a d'autres choses qui vont plus mal que ça, mais le football, quelque part, c'est un peu la joie du Nord, hein. C'est un peu le repas du dimanche ou du vendredi maintenant ou du samedi. C'est le film que les jeunes avaient quand on avait 10 ans et tout. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Hein.
Ah oui, et puis on va rappeler que l'année dernière, hein, on a eu la chance de le vivre à vos côtés. Il y avait eu les pré-barrages et les barrages. Finalement, oui. Il y avait une marche de trop, hein, pour les Lensois, malheureusement, pour accéder à la Ligue 1.
En fait, je l'analyse pas comme ça. C'est pas la marche de trop qu'il y avait. C'est le déroulement de la saison. Quand on regarde les deux saisons, elles sont pratiquement parallèles. On a mal débuté cette année parce qu'on s'en avait les quatre matchs de barrage très durs dans les jambes. L'année dernière, on avait démarré tout doucement avec Montagnier, nouvel entraîneur. On était en tête pratiquement en décembre l'année dernière et cette saison aussi. Et d'un seul coup, comme cette saison, cinq matchs, deux défaites, trois matchs nuls, ce qui a valu l'éviction de Montagnier. Et ce que l'on peut reprocher, enfin, si on peut reprocher quelque chose à un homme comme ça, c'est qu'il n'a jamais trouvé la solution, que ce soit l'année dernière et cette année. L'année dernière, il nous manquait un ou deux points qu'on avait perdus pendant cette période. Là, on les aurait peut-être eu, ces points, avec le changement d'entraîneur, le choc psychologique. Enfin bon, on a deux saisons similaires. On aurait dû déjà monter l'année dernière. On est monté cette année. On aurait dû monter il y a trois ans quand Amiens marque à la 97e minute à Reims. À un moment, il fallait que ça arrive, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce n'est finalement que rétablir une certaine justice. Hein. C'est ça.
Oui, c'est une certaine justice. Et c'est aussi une organisation. C'est aussi une volonté. Et moi, je le ressens. Je suis au club depuis 62, hein, depuis les équipes de jeunes et puis supporters depuis 62. J'adore Gervais Martel, avec qui j'ai discuté l'année dernière à Paris. Et je crois que vous étiez avec moi, d'ailleurs, aussi.
Oui, oui.
Mais maintenant, il faut passer à des dirigeants à un bord de professionnels, comme les sociétés. C'est recettes, dépenses, commerce, ça marche pas, on regarde ce qui marche pas, on enlève ce qui marche pas et on change. Et ça, je crois que c'est une des sérénités pour l'année prochaine, c'est que du côté dirigeant, on a vu tout de suite, ils ont tranché. Ils ont plus fait de paternalisme, ça n'a pas marché Montagnier, il faut prendre autre chose. On avait les moyens, on avait le produit, mais on n'arrivait plus à le vendre. Hop, on change. Et c'est ce qui nous rend serein pour l'année prochaine, parce que ça nous a permis cette année, d'un point de vue, comment dirais-je, sportif, on a conservé nos jeunes, on les conserve, Benza, Doucouré, Boli. Il n'y a pas eu d'exode de bons joueurs réguliers. On garde les joueurs de moyen âge, comme je disais, entre 21 et 24 ans, les Michelin, Radovanovic, Robay, Sotoka, tous ces gens, tous ces garçons-là, on va pouvoir les affiner. Le renfort, on est en train de regarder, quand on regarde tous les noms qui circulent pour Lens, c'est du renfort intelligent, parce que c'est pas uniquement du renfort pour faire un gros coup la première année en première division. C'est un renfort pratiquement à tous les postes, comme tous les clubs d'ailleurs, mais c'est un renfort avec des personnes expérimentées qui puissent entourer les jeunes. Et puis, on a une conservation du poste d'entraîneur avec les adjoints. Ça, c'est le premier point serein. Le deuxième point, je vous l'ai dit, c'était les dirigeants qui restent là. Et le troisième point qui est énorme maintenant, je parlais de société, je dis, c'est qu'on a des finances qui sont saines. Le fait d'avoir vendu des chouillères et puis d'autres éléments du Vergne, on a, comment dirais-je, renfloué notre déficit. Il y a eu un plan de départ volontaire au club où il y avait 100 salariés, il en reste 160. Et puis, surtout, vous êtes bien au courant comme moi aussi, c'est l'actionnaire principal qui a dit « je pérennise le club, je mets 13 millions sur la table, je manque de capital ». Et quand on regarde, il va falloir le regarder, et vous allez le regarder au mois d'août, vous verrez que dans les clubs qui ont subi le contre-coup du Covid-19, nous on sera un des moins touchés parce que, enfin financièrement je parle, un des moins touchés parce que justement il y a cette augmentation de capital et il y a cette volonté non plus farfelue de l'Azerbaïdjan ou quoi que ce soit, mais il y a cette volonté de se maintenir dans un football français et de maintenir une région de football, quoi. Enfin, 28 000 spectateurs de moyenne en deuxième division.
Absolument, absolument, Jean-Pierre. Donc ça veut dire que la saison prochaine, bah oui, le finir dans le ventre mou du championnat, c'est largement envisageable.
Alors, l'objectif, il n'est pas de finir ventre mou, devant, derrière, ainsi de suite. L'objectif, il est, moi je le vois, et avec beaucoup de supporters que je vois, c'est ce qu'on appelle réussir sa montée.
Oui, donc de ne pas
réussir sa montée.
Et faire un bon réussir sa...
Alors, c'est pire que ça, c'est plus que ça. Réussir sa montée, c'est bien se maintenir la première saison, effectivement, mais en solidifiant les bases pour les saisons suivantes et en s'installant durablement dans le championnat. Ça passe par un recrutement solide et pérenne. Pas uniquement des anciens, comme je l'ai dit, pour renforcer la première année, puis après, ben, on s'écroule. Regarde les clubs comme Dijon, ça fait déjà deux ans qu'ils font de la corde raide. Le Mans, en deuxième division, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ensuite, ça veut dire aussi mettre dans de bonnes conditions les jeunes qui pourront sortir du centre de formation, finir l'apprentissage et puis l'épanouissement de nos jeunes de 21-23 ans, comme on dit, de ces joueurs-là. Et en fait, c'est solidifier tout ce bloc, toute cette équipe, le Racing Club de Lens de la saison dernière, avec des apports extérieurs, mais surtout beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, l'écusson du club à la place du cœur. Et ça, on peut y compter parce qu'on l'a vu l'année dernière, il y a 2 ans.
C'est vrai. Et puis, ça rendra fier aussi là où ils sont maintenant. Donc, le druide, Daniel Leclerc, et puis Arnold Sovinski aussi, qui nous a quittés cette année.
Tout à fait.
À cause du Covid.
Tout à fait. Et ouais. s'il y avait quelqu'un ou quelque chose pour mettre sur le podium de la montée, c'est bien ces gens-là.
Comment vous avez vécu cette saison un peu particulière, Jean-Pierre, vous l'amoureux du foot, en dehors de la Ligue 2, naturellement, le championnat de Ligue 1, est-ce qu'il fallait l'arrêter ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on voit des voix un peu dissonantes. Est-ce que vous auriez été pour l'arrêt du championnat ou la reprise comme ça va se faire dans les principaux pays européens ou comme ça s'est fait déjà du côté de l'Allemagne?
Je suis très mitigé là-dessus parce que l'arrêt, oui, parce que c'est quelque chose de normal. Quand on voit qu'on a arrêté toutes les manifestations de plus de 500 personnes à un stade, ne serait-ce que Lens, déjà 28 000 personnes, manifestation comme ça, ça c'est... Alors, l'arrêt du championnat, au moment où il a été fait, prévention, sans les distanciations sociales, sans ci, sans là, c'est tout à fait normal. Il faut penser à la santé des gens, pas seulement la santé des joueurs, mais la santé des gens, des dirigeants et tout ça, puis après, ça se propage. Par contre, le choix d'une non-reprise, nous, on a réagi avec 3 semaines et 1 mois de retard en France. Dans l'évolution de la maladie, on aurait pu reprendre que juillet, août. Mais quand on regarde bien les conditions d'organisation observées en Allemagne, dans les pays qui ont démarré, en Italie, en Espagne, on n'a pas les moyens. Il y a une grande partie des clubs de L1 qui ne pourraient pas tenir ces conditions-là. 40 personnes confinées 2 mois et demi dans un centre de formation avec des entraînements particuliers, des machins. On n'a pas la moitié en France qui ont cet espace-là et qui ont cette possibilité-là. Alors, le choix de la non-reprise, je pense qu'il est quand même judicieux parce que là, on aurait favorisé les riches, entre guillemets, ceux qui pouvaient se le permettre, les Lyon, les Paris, même Lens, parce que nous, on peut se le permettre avec notre centre de formation, ça. Mais par contre, les clubs qui se sont battus pour être en L1 et puis qui n'ont pas toutes ces structures, ainsi de suite, on les condamne tout de suite, ces clubs-là, c'est clair.
Et pour la suite donc de la saison, les Coupes d'Europe qui vont peut-être reprendre, ça risque de poser quand même problème à nos 2 clubs français, donc Paris Saint-Germain et Lyon, d'être, j'allais dire, compétitifs, d'être dans le coup.
Oui, ça par contre, c'est une chose. Mais avant les Coupes d'Europe, pour le statut des championnats, que l'on déclare le champion, la personne qui monte en première division, Paris, il n'y a aucun problème, OM, il n'y a aucun problème. Après, ceux qui sont derrière, Rennes et Lille se tenaient. Les autres sont quand même, il y a un tout petit trou derrière. Alors c'est vrai qu'il reste 10 matchs à faire, mais moi, ce qui me gêne le plus dedans et ce qui me gêne le plus, ce sont les derniers. Derniers avaient encore leur chance.
Oui, ça veut dire, même Amiens, Nîmes, ça pouvait se jouer.
Toulouse.
Nîmes, Amiens, Toulouse aussi.
Toulouse, 13 points. Sur 27, il restait 14 points. Bon, il reste quand même 30 points à prendre sur 10 matchs. Amiens. En deuxième division, c'est pareil. Quand on a le Mans qui est au même nombre de points que Niort, mais qui descend au goal average, ou un truc comme ça. Ça me fait un peu mal. Par contre, effectivement, pour revenir à l'élite et puis à la Coupe d'Europe, ça risque un peu d'être préjudiciable que pour nos clubs français qui pour la Coupe d'Europe, quoi, en fait, en quelque sorte. Ouais. Mais ceci étant, je crois que Lyon est éliminé.
S'il y a un triplé du Paris Saint-Germain, c'est Nice et Reims qui, on l'a dit tout à l'heure, représenteront donc avec l'équipe de Lille, donc les Français en Europa League. Alors, ça va faire une saison, finalement très longue, qui va nous emmener jusqu'à l'Euro. Est-ce que c'est pas un problème, ça? Parce qu'il y a une grosse coupure de 2 mois, et puis finalement, on va avoir pratiquement, pour les internationaux, une saison non-stop jusqu'à l'Euro, jusqu'en juillet 2021, pardon, long juillet.
C'est un très gros problème pour les organismes. Alors, c'est déjà un très gros problème psychologiquement, parce que qu'il va falloir gommer dès le début de saison, parce que je parle même pour nous, Lens, on est champion, mais bon, on n'a pas fait tous les matchs, mais on est champion parce qu'on avait nos résultats, ainsi de suite et tout. D'autres vont être qualifiés en Europe, et puis psychologiquement, on se dit, bon, on n'aurait pas pu y être, allez, tant pis, on fait basta, mais ça, ce sont des choses qu'il faut éliminer. Et après, physiquement, quand on regarde, je pense que vous avez regardé les premiers matchs de la Bundesliga, quand on voit les clubs comme le Bayern et Dortmund qui se sont entraînés pratiquement pendant les 2 mois individuellement, certes, et très poussés aussi. Bon, ils ont quand même mis deux, trois matchs d'adaptation. Là, ça commence à tourner un petit peu. Et après, c'est un match tous les trois jours. En ayant une coupure comme ça, pour les organismes, ça peut être très, très difficile. Et je pense que là-dessus, vous avez raison. Et... Par contre, l'idée de mettre 5 remplaçants, ça, j'étais très surpris de l'humanisme des instants du football, d'avoir compris ce genre de choses et puis de pouvoir autoriser 5 remplacements. Alors, est-ce que ça sera gardé par la suite? Est-ce que ce sera pas gardé par la suite? En mettant le petit bémol, pas de remplacement dans les 10 dernières minutes pour pas gagner de temps, bon, ça, d'accord, ok. Mais ça peut être quelque chose à creuser et à garder, parce que les organismes, c'est dur hein, quand même.
Ouais, je pense que ça va rester. C'est dans l'ère du football moderne maintenant. Je pense qu'effectivement, de plus en plus, on fera du coaching à travers ces 5 remplacements. Merci en tout cas, Jean-Pierre Bossillon.
C'est moi qui vous remercie de pouvoir parler pour mon club. En tous les cas, si je peux terminer, si je peux dire une dernière chose, pour nous, pour le Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens n'est pas arrivé. Hein. C'est simplement un démarrage. C'est le démarrage d'une période que tous les supporters espèrent faste pour la ville. Quand le cœur, notre Racing Club de Lens, il bat bien, la ville et ses environs vont bien. C'est clair.
C'est vrai. Et j'ai pu le constater. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Et puis vous viendrez nous en parler la saison prochaine dans nos différents tribunes foot. OK? Allez. Merci Jean-Pierre, en tout cas, merci à Bruno Pasco, merci aussi à Jean-Pierre Vaquez, merci à l'autre Jean-Pierre d'avoir été à distance ce matin, et puis on se retrouvera la semaine prochaine donc pour Tribune Sport entre 10h et 11h. Merci en tout cas d'avoir été fidèle tout au long de cette saison à nos différents rendez-vous de Tribune Foot, et bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
RVE 103.7. Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep, this got me jiving. You know I'll be everything you need. I got secrets that blue sky just for me. Your taste on my lips, wine gets to my head. Quickly, 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 quickly.
RVE, le
point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ce sont 1 million d'enfants qui pourront avoir accès à des vacances studieuses. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a présenté hier les modalités de son projet Vacances apprenantes. Des écoles resteront ouvertes avec des cours le matin, des activités l'après-midi. 400 000 élèves en bénéficieront. Du soutien scolaire sera organisé gratuitement, notamment la dernière semaine d'août. 25 000 personnels seront mobilisés. C'est 5 fois de plus qu'actuellement. Et l'État va aussi financer 300 000 places en centre de loisirs et 250 000 en colonies de vacances. Si vous jetez vos masques au sol après l'utilisation, gare à vous, ça pourrait vous coûter plus cher. Brune Poirson, la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire, va faire passer l'amende pour jet de masques de